Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Au moins 2000 jeunes déjà recrutés dans les rangs des FARDC rien qu'à Goma. C'est à la suite de l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État le jeudi dernier. Le porte-parole militaire l'a fait savoir hier à Kinshasa à la conférence de presse conjointement animée avec le porte-parole du gouvernement. Écoles, églises et des maisons soit écroulées, soit ont perdu leur toiture. Cela s'est passé vendredi dans la cité de Kongolo, province du Tanganyika. C'est après une forte pluie accompagnée des vents violents, les autorités de Kalemie demandent l'aide pour les victimes. Et puis, le premier forum national sur les traditions et la religion dans la lutte contre les violences basées sur le genre s'est clôturé vendredi à Lubumbashi, organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population. Pour en parler, nous recevons Madame Diene Keita, directrice exécutive adjointe de l'UNFPA. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de 2000 jeunes sont déjà recrutés rien que pour la ville de Goma au Nord Kivu dans les rangs des FARDC, ce depuis l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État le jeudi dernier. Déclaration du porte-parole militaire, le général Simon Ekenge, hier à Kinshasa. C'était à l'occasion de la conférence de presse conjointement animée avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Muyaya. Le général Sylvain Ekenge a ajouté que les jeunes recrues seront envoyés dans les centres de formation militaire dans Kitona, dans le Congo central. Le général Sylvain Ekenge, dans ses propos recueillis par Paul Matendo Mayamba.
Donc, en réponse à cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000 à Goma, rien qu'à Goma. Ils sont plus de 2000. Et ici, il y en a qui sont déjà arrivés au centre d'instruction de Kitona depuis avant-hier et hier. Et il y en a qui continuent à être orientés vers Kitona. Pourquoi s'enrôler dans l'armée pendant cette période? Eh bien, le chef de l'État vient de le dire, la nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux, défendre l'intégrité du territoire et puis protéger les Congolaises et les Congolais ainsi que leurs biens. Et nous avons ce devoir-là en tant que citoyens.
Par ailleurs, les populations de l'Est de la RDC, principalement au Nord Kivu et en Ituri, font face à des conditions de vie inhumaines, des pillages des ressources naturelles, des viols des mineurs et des enlèvements des enfants. C'est ce qu'a relevé hier à Kinshasa Norbert Ezadri Egouma, député national. C'était au cours d'une conférence de presse, conférence qui intervient après ses vacances parlementaires dans le Nord Kivu. Il recommande entre autres au peuple congolais d'abandonner tout discours de démobilisation des FARDC qui sont au front. Il a également appelé toute la population a constitué des groupes d'alerte pour dénoncer la présence de ceux qu'il qualifie de criminels. Norbert Ezadri, au micro de Paul Matendo Mayamba.
Cessation d'actes et discours de désunion, de démobilisation de notre peuple ainsi que de ses forces de défense et de sécurité par le relais de la propagande mensongère des agresseurs qui leur confèrent gratuitement une ascendance psychologique dans ces conflits. C'est dans ce sens que j'invite tous les groupes armés, Mai Mai, Simba, FRPI, FPIC Chinia Kilima, Kodeko, Zaï, Bakatakatanga, à cesser avec les hostilités internes. Constitution des groupes de vigilance populaire par quartier dans les zones touchées et épargnées sur toute l'étendue du territoire national, chargé de travailler en étroite collaboration avec la police nationale et l'armée pour signaler toute situation suspecte.
Il y a au sein de la population congolaise un besoin pressant d'une justice administrative, mais qui reste dans l'attente de l'accompagnement des pouvoirs publics. Propos de la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odionondé, s'est ainsi exprimée hier à Kinshasa lors de la cérémonie officielle de la rentrée judiciaire. Selon elle, ce besoin se manifeste entre autres en matière d'infrastructures à construire ou à réhabiliter. Marthe Odionondé, au micro de Paul Matendo.
Les juridictions administratives inférieures, à l'occurrence les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, n'étant pas encore installés à travers le pays, aucune inspection n'a été effectuée à ce jour. Ainsi, pour pallier à cette carence des juridictions administratives inférieures, j'ai programmé des missions sur l'ensemble du territoire national en vue de leur installation progressive. Mais faute de moyens, 4 provinces seulement sur les 26 ont reçu les missionnaires. Il s'agit de la province de l'Équateur, du Kasaï central, du Congo central et du Maniema. En compulsant les différents rapports de missions à ma possession, force est de constater qu'il y a au sein de la population un besoin pressant d'une justice administrative, laquelle malheureusement reste en attente de l'accompagnement des pouvoirs publics, principalement en matière d'infrastructures à réhabiliter ou à construire.
Direction la province du Tanganyika. 2 bâtiments d'une école, une église et une dizaine de maisons sont soit écroulés, soit ont perdu leur toiture. C'est le bilan d'une forte pluie accompagnée des vents violents qui s'est abattue le vendredi sur la cité de Kongolo. Pour le chef du service de l'environnement à Kongolo, la population doit apprendre à planter les arbres pour éviter ces genres de catastrophes. Paulin Munanga nous raconte.
À Kongolo centre, les blocs touchés sont Kizito et Bel Air au quartier ville. Des 2 bâtiments de l'école Mbazi, l'une s'est complètement écroulée et l'autre a perdu la toiture. D'après des sources à Kongolo, cette école avait 3 bâtiments et compte plus de 700 élèves. Avec ce drame, les responsables de l'établissement scolaire ne savent plus à quel saint se vouer. Signalons par ailleurs qu'une église et des maisons d'habitation se sont soit écroulées, soit ont perdu la toiture. Les victimes ne savent quoi faire pendant cette période pluvieuse. Pour les chefs des services de l'environnement à Kongolo, la population doit avoir cette culture de planter régulièrement des arbres pour se protéger contre ce genre de catastrophes. Kitoko Salumu.
Service et environnement.
Le service de l'environnement s'était organisé et avait planté des arbres dans l'enceinte de cette école. C'était dans le but de protéger cet établissement scolaire contre des vents violents. Mais certains habitants de Kongolo se permettent d'aller enlever les arbres que le service de l'environnement a plantés. Et bientôt, ce sera la célébration de la journée mondiale de l'arbre. Je demande aux habitants de Kongolo de saisir cette occasion pour planter les arbres. Les autorités du territoire de Kalemie demande de l'aide pour les victimes. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Au Congo central, le gouverneur de province Guy Bandou s'en va en guerre contre l'insalubrité constatée dans son entité. Hier samedi à Matadi, une opération a été lancée dénommée Bunkete, entendez propriété, consistant à évacuer les déchets qui jonchent les rues et autres coins de la ville. Le ministre provincial de l'environnement Yves Tsongo, qui a lancé cette opération, a fait savoir que la question liée à l'environnement fait partie des axes prioritaires de leur gouvernement pour éviter les maladies causées par l'insalubrité. Il invite ainsi la population à s'approprier cette activité en vue d'avoir une santé saine dans un environnement propre. Reportage de Nana Plurish Mambou.
L'opération Bunkete offre un double avantage. D'abord, l'assainissement des fonds en comble via l'écirage des caniveaux et le ramassage des déchets à travers toute la province du Congo central, en commençant par la ville de Matadi. Ensuite, la création d'emplois, car rien que pour la première phase de cette opération, 120 brigadiers d'assainissement recrutés parmi les jeunes de Matadi, formés par l'Office des voiries et drainages, seront mis à contribution. Pour mener ces travaux, l'OVD qu'il exécute a mis à leur disposition le brosse, les bêches, les pelles, les pioches, les balais, les brouettes et les tricycles. Grâce à l'opération Bunkete, les ordures, les immondices et autres déchets ne seront plus jetés dans le cours d'eau, dans les caniveaux et au bord des routes. Car l'Office des voiries et drainages prévoit de placer des poubelles le long des artères et les tricycles passeront pour les vider. Le ministre provincial de l'Environnement Yves Tsongwa, dans son message à l'issue de la cérémonie du lancement de ses travaux, indiquait que cette opération vaut son pesant d'or au regard de l'insalubrité indescriptible dans laquelle est plongée la province. Cet environnement insalubre engendre comme corollaire sur la population les maladies infectieuses et diarrhéiques. L'opération Bunkete, financée par le gouvernement provincial, va s'étendre sur toute la province. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Rendons-nous au Maniema, l'ONG Action pour la protection et la défense des droits de l'enfant à Proded, qui encadre les enfants orphelins, abandonnés et les sourds en menuiserie, coupe et couture, pâtisserie et en agro-pastoral dans la cité minière de Kalima, demande l'accompagnement en matériel des gouvernements provincial et national ainsi que des ONG. Le coordonnateur Kikan Dakando Lundai fait savoir que à Proded détient un terrain vide. C'est ainsi qu'il plaide pour sa construction, pour un bon encadrement de ses enfants. Kikan Dakando Lola dit à Florence Kiza.
J'ai le souci de venir auprès de la nation pour donner notre doléance telle que nous encadrons les enfants orphelins, les enfants abandonnés. Nous encadrons aussi les sourds. Nous faisons ce n'est que l'auto-prise en charge. Alors nous demandons au gouvernement provincial, national et aux zones GD nationales et internationales pour nous aider, pour nous accompagner. Alors notre souci est d'accompagner la vision du chef de l'État pour mettre la jeunesse dans des activités, de ne pas être dans la rue. Alors nous encadrons ces enfants-là pour qu'ils puissent être utiles dans la société. Parce que parmi eux, il y a qui connaît déjà fabriquer les meubles, les tables. Nous demandons l'assistance des ministères de la formation professionnelle parce que nous avons le centre de formation professionnelle. Nous avons la menuiserie, la couture, pâtisserie ainsi que l'agro-pastorale.
La science doit contribuer au développement de la société plutôt que d'alimenter les groupes armés qui sèment terreur et désolation dans la province de l'Ituri. Ces propos sont du recteur de l'université Shalom de Bounia, aux quelques 180 lauréats que son institution a mis hier sur le marché de l'emploi. Pour lui, ces lauréats doivent mettre à profit les connaissances acquises pour contribuer au développement de la science, à l'entrepreneuriat, à la culture du vivre ensemble et non à s'aimer des divisions au sein de la communauté. Georges Pirot-Atido invite ces étudiants, dont la plupart sont des jeunes, arrivés grands, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat qui, indique-t-il, contribue au développement économique de la région. Le professeur Georges Pirot-Atido s'exprime au micro d'Ezekiel Mousalia.
Nous pensons que la science contribue plutôt au développement au lieu de contribuer à l'insécurité. Ceux qui ont un diplôme, ceux qui ont développé une certaine connaissance dans un domaine, de plutôt utiliser cette connaissance pour plutôt contribuer au développement de notre société et de notre pays. Et nous voulons que tous ceux-là qui ont appris quelque chose, qui ont été exposés à la science, nous voulons vraiment inviter tous les lauréats à se mobiliser pour le travail. Et c'est ça cette dimension qui peut-être manque aussi. C'est le travail, c'est l'innovation, c'est la création, ce sont les initiations. Et c'est ça ce qu'il nous faut maintenant, nous mobiliser ensemble avec toutes les connaissances. C'est surtout les jeunes qui sont récupérés dans ces histoires de l'insécurité. Si ces jeunes sont récupérés dans l'entrepreneuriat, dans le travail, dans les structures dans lesquelles ils peuvent travailler et gagner leur vie, nous pensons qu'ils peuvent cesser avec les atrocités et plutôt travailler pour la construction du pays.
Et puis, la restitution de la deuxième édition du festival Congo River du 14 juin 2022 a eu lieu le vendredi 4 novembre à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, fleuve Congo au cœur des défis environnementaux, culturels et socio-économiques. C'est autour de ce thème de la deuxième édition que la restitution a tourné. Objectif, sensibiliser la population sur les dangers de la pollution du fleuve Congo, plus précisément avec les déchets plastiques. C'est un reportage signé Kelly Yoka.
Dans le village Maza, coulait un fleuve.
C'est par les contes et les poésies que l'Assemblée a été sensibilisée sur la préservation de la nature, précisément celui du fleuve Congo. Une restitution du fleuve touristique Congo River qui annonce une deuxième partie purement scientifique prévue dans la ville de Mwanda, nous dit Vincent Kunda, initiateur du festival.
La partie scientifique, c'est le côté où nous échangeons sur les enjeux du fleuve Congo. Nous l'avons fait pour les deux éditions passées. Nous l'avons fait en un jour, mais comme vous pouvez l'imaginer, en un jour, nous ne pouvons pas épuiser tous les sujets par rapport au fleuve Congo. Donc l'année prochaine, nous allons partir plus pour une retraite scientifique et nous comptons le faire dans la ville de Mwanda.
Un moment de sensibilisation écologique qui a interpellé Alain Bokosso, participant.
Au-delà de la conservation du fleuve, au-delà de tout, nous devons aussi exploiter, développer le tourisme sur les fleuves Congo. Voilà ce que j'ai retenu comme élément.
Ici est de noter que la restitution de la deuxième édition du festival Congo River a été sanctionnée par la victoire du jeune élève Jonathan Mukoka, qui a remporté le concours de poésie sur le fleuve Congo, initié par le festival.
Actualité internationale.
En Somalie, un kamikaze a attaqué samedi un camp d'entraînement militaire faisant des victimes, selon une source militaire à l'AFP. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab, ce, une semaine après un double attentat ayant fait 116 morts à Mogadiscio. Il y a des victimes, tant civiles que parmi les nouvelles recrues, a ajouté la même source, précisant que les investigations étaient toujours en cours. À trois jours des élections américaines de mi-mandat, démocrates et républicains mettent les bouchées doubles pour mobiliser les électeurs, allant jusqu'à convoquer samedi dans un même état clé deux anciens présidents, en plus de Joe Biden, Barack Obama et Donald Trump. Ils espèrent faire pencher la balance dans une course de mi-parcours très disputée et qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat américain.
L'invité.
Le premier forum national sur les traditions et la religion dans la lutte contre les violences basées sur le genre s'est clôturé vendredi à Lubumbashi. Il a été organisé par le ministère de Genre, Famille et Enfants en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population. Pour Madame Diene Keita, sous-secrétaire générale de l'ONU en charge de la lutte contre les violences basées sur le genre et directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, durant ce forum qui a réuni les chefs traditionnels et religieux représentant 26 provinces, il était question de chercher comment bannir les pratiques néfastes et rétrogrades qui touchent la jeune fille et qui la mettent en marge de la communauté. Madame Diene Keita, notre invitée, s'entretient avec Jean Gandou.
Madame Diene, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi associer les chefs religieux ainsi que les chefs traditionnels à ce premier forum?
Associer les chefs traditionnels et religieux est une activité inhérente au programme de UNFPA, parce que nous vivons dans les communautés en général et le rôle des chefs religieux et traditionnels est extrêmement important dans toutes les communautés. Ils ont un rôle moral tellement important qu'il est important qu'ils soient informés et formés sur ce que nous faisons afin qu'ils puissent passer le bon message.
Parlant de violences basées sur le genre c'est aussi les hommes et les femmes, mais au cours de ces assises, vous mettez beaucoup plus d'accent sur les femmes et les petites filles. Pourquoi mettre de côté les jeunes garçons qui sont aussi victimes de certaines violences dans les milieux où ils vivent?
On a parlé beaucoup de jeunes filles ici parce que parmi les violences les plus injustes en matière de droits humains pour le moment, c'est le mariage précoce qui tend aux grossesses précoces et qui peut tendre à des grossesses qui finissent très mal, à mortalité maternelle ou morbidité maternelle et créer des fistules. C'est pour ça que souvent on a tendance à se focaliser là-dessus. Mais vous avez entièrement raison, pour la quinzaine de la violence qui arrive bientôt, fin novembre, pour cela, on se concentre plutôt sur la question du genre, la question des hommes et leur implication. Et mon souhait, en fait, que ce soit une formation, une sensibilisation à la question de la violence, parce qu'elle est culturelle, finalement. C'est que la culture soit pratique bonne ou pratique néfaste, mais elle est culturelle, et ça, ça doit changer. Et quand je dis culturelle, je pense aussi bien aux hooligans dans les stades de foot, qui tapent tout sur leur chemin, que des jeunes de rue qui pourraient aussi violenter la première femme qu'ils trouvent.
On met l'accent sur cela pour les besoins de notre programme, en faisant comprendre aux gens que la petite fille qui est victime de violence risque de tomber enceinte. Les petits garçons ne tombent pas enceintes, Dieu merci pour eux. Les filles risquent de tomber enceinte, risquent de sortir de l'école et risquent peut-être même d'être exclus de leur famille. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent dessus. Mais vous avez raison, aussi bien les jeunes gens, les garçons, que les filles sont importantes, mais leurs parents et leurs frères et sœurs. C'est pour ça que ça concerne toute la société en fait. Et donc, mettre l'accent auprès des leaders religieux et communautaires leur permet de les protéger aussi dans leur environnement et dans l'environnement des communautés.
Les leaders religieux peuvent facilement mettre en pratique ce que vous demandez, de par le précepte qu'ils enseignent à leurs fidèles. Mais par rapport aux chefs coutumiers, qui sont tellement ancrés dans des coutumes, qui par moments sont en défaveur de la jeune fille, pensez-vous que de par un forum comme celui-ci, ils peuvent tourner dos à certaines valeurs ancestrales?
Ils ne tourneront pas dos à tous, mais dans toutes nos coutumes et cultures africaines, nous avons les pratiques positives et les pratiques néfastes. Notre rôle essentiel, c'est de nous assurer qu'ils réalisent les pratiques qui sont néfastes au développement et à la vie de la jeune fille pour qu'ils puissent les supprimer au fur et à mesure. Celles qui sont positives, il n'y a pas de raison de les supprimer. Au contraire, elles mettent en valeur nos cultures et on en a beaucoup, mais on a tendance à faire voir surtout ce qui ne marche pas bien. Et on aimerait qu'ils se focalisent sur ce qui marche bien dans la communauté.
Pourquoi n'avoir pas associé également les représentants du peuple, notamment les députés qui élaborent les lois et tout, pour que certaines pratiques qui dégrade la valeur de la femme ou de l'homme puisse être interdite afin que tout le monde puisse réellement le respecter.
Parce qu'on fait les séminaires et les ateliers de manière différente. Celle-ci était vraiment à vocation de sensibiliser les chefs traditionnels et les chefs religieux. Il y en avait quelques-uns qui étaient là, mais on fait d'autres activités liées exclusivement aux députés. Et ici d'ailleurs et à l'international, mais on en fait d'autres exclusivement liées aux députés.
Pour terminer, madame, les forums du genre ont-ils déjà été organisés à travers l'Afrique? Et quelles sont les différentes pesanteurs que vous avez pu épingler lors de ces forums-là et dont les recommandations peuvent aider ceux qui sont ici à Lubumbashi pour que réellement, cette fois-ci au moins ou tout au moins, que la femme puisse retrouver toute sa valeur?
Oui, les forums de la sorte ont été organisés un peu partout en Afrique. Ça, c'est l'une vraiment de nos activités phares et très spécifique à chaque pays, à chaque région. Donc, les lourdeurs, en fait, le représentant sur place avec ses équipes font un travail de suivi très méthodique pendant des mois et des mois dans chaque région pour pouvoir avoir les leaders traditionnels et religieux et ensuite les mettre ensemble. Les pesanteurs qu'on peut rencontrer, évidemment, c'est de discuter avec eux des pratiques néfastes et voir comment elles peuvent être atténuées, voir comment elles peuvent être changées. Ça, ça arrive, mais ça se débloque et on a de très très bons résultats.
Madame Dien, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Madame Diane Keïta, sous-secrétaire générale de l'ONU en charge de lutte contre les violences basées sur le genre et directrice exécutive adjointe de l'UNFPA, répondait aux questions des Jean Gandou. C'est la fin de ce journal, supervisé par Noëlla Luzitu Kabambi et Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de votre attention.